avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. C'est le rendez-vous des tchatcheuses aujourd'hui. Comme chaque mois, je reçois trois femmes journalistes de trois continents, mais là c'est un peu plus compliqué aujourd'hui pour commenter l'actualité de leur choix. Avec aujourd'hui la journaliste turque Ayşegül Sert Merhaba.
Merhaba Emmanuel.
Où situer la Turquie? C'est l'éternelle question, ce ne sera peut-être pas l'objet du débat aujourd'hui.
Nous sommes entre les deux.
Voilà. Vous écrivez entre autres pour le New York Times et oui. Newsweek en tant que journaliste turque. Ulrike Kolterman est également avec nous. Guten Tag.
Guten Tag, tout à fait européenne.
Notre chatcheuse allemande. Vous collaborez à différents journaux et chaînes de télévision allemandes. L'Argentine, Nathalie Kant. Hola Nathalie.
Hola Emmanuel.
Vous travaillez pour Courrier International et Le Quotidien Argent. La Nation. Les tchatcheuses, évidemment, c'est vous qui faites l'émission, vous connaissez la règle. Il sera question notamment de la reprise en main de la société turque, de l'école maternelle en Allemagne, ou encore, je devrais dire, les jardins d'enfants, ou encore des concours de beauté en Argentine. Trois langues bien pendues pour dénoncer, râler ou rire des dérives de nos sociétés. Et puis en fin d'émission, je vous propose un reportage, non pas sur de l'actu, mais sur une tradition vieille de plus de deux siècles en Espagne, en Catalogne très exactement, qui donne à réfléchir aujourd'hui d'ailleurs. Ou comment le succès jamais démenti des compétitions de tours humaines raconte finalement quelque chose d'universel sur l'humanité.
Tchatcher, c'est parler avec plaisir, aimer parler, y prendre du plaisir.
Les tchatcheuses, elles ont du caractère.
Ils parlent beaucoup de choses, tout chat, ça veut dire causer, sans contrainte.
Elles décident pour elles-mêmes, elles sont en bande.
C'est le plaisir de dire ce qui vous passe par la tête.
Ça parle.
Dire tout ça, ça fait du bien.
Les tchatcheuses sont énervées.
Il y a du sérieux et du léger. Et Ayşegül Sert, votre pays, la Turquie, vit à la fois un chaos sécuritaire, politique, social. Et en première ligne, bien sûr, comme toujours, comme souvent, en tout cas, il y a les femmes. Et vous souhaitiez revenir sur l'agression d'une femme dans un bus d'Istanbul. C'était il y a quelques jours, en ce mois de septembre. Pour vous, il ne s'agit pas d'un simple fait divers.
Non, il ne s'agit pas non plus d'un simple cas isolé. L'histoire, c'est qu'il y a quelques jours, un homme dans un bus public a violemment attaqué une femme, une infirmière d'une vingtaine d'années, qui était habillée en short, en disant que c'était une tenue qui n'était pas acceptable. Ce qui était encore plus étrange dans cette histoire, c'est que ça a pris plusieurs jours pour que cet homme soit pris par la police en charge, pour qu'il soit détenu. Ça montre aussi un petit peu la vision de la justice et de la gouvernance.
C'est-à-dire qu'il a été interpellé une première fois, puis relâché.
Relâché, hein. Et après à nouveau, une fois qu'il y a eu un placement, des voix qui ont créé un écho en solidarité,
il a été détenu. Et vrai déchaînement sur les réseaux sociaux. Hein,
tout à fait. Ce que j'apprécie beaucoup en un sens avec mes compatriotes, et ça on l'a vu aussi en 2013 pendant le mouvement Gezi, c'est un sens d'humour et de solidarité et de spontanéité qui est assez authentique. C'est-à-dire que pour ce cas par exemple, il y a eu des hommes, des hommes et des femmes sur les réseaux sociaux qui se sont pris en selfie et qui ont posté des photos d'eux en short. Oui. Il y a eu des rassemblements.
Nous sommes tous en short, c'est ça.
Voilà, c'est dommage, j'aurais dû en mettre un aujourd'hui, mais c'est un peu gris et froid à Paris. Et ce qui est aussi, il y a eu des rassemblements aussi dans des places publiques à Istanbul et en d'autres parties. Ce qui n'est pas un cas isolé, je disais, parce qu'il y a trois mois de cela, un homme, encore à nouveau dans un transport public, a aussi été filmé par le caméra de surveillance en train de montrer son sexe à une femme. Ça me brise le cœur, cette histoire, parce que ça peut paraître comme ridicule et isolé, mais ça ne l'est pas et ça se multiplie de plus en plus. Et dans un pays où la place de la femme, et je souligne ça, régresse vraiment depuis quelques années, et un pays qu'on pense qui a eu le droit de vote 10 ans avant la France, on voit à quel point on n'est pas vraiment en train d'avancer, mais de régresser.
Les transports en commun dans une ville internationales, cosmopolites comme Istanbul, sont devenues un problème ?
Un problème, non, mais c'est peut-être un endroit où le regard de l'homme et la présence de la femme se croisent de plus en plus. Et pour moi, ces cas, ça montre comment les paroles des hommes politiques en Turquie soutiennent des... soutiennent le fait que la femme est vue comme un objet.
Avec alors les questions qui font débat, c'est qu'est-ce qu'une tenue correcte ou bien est-ce qu'une telle violence est justifiée ? La ministre de la famille tout de même a soutenu la victime, hein, je crois, en disant il y a un vrai problème de violence. Hein.
Absolument, de violence, mais aussi
parce qu'elle a été rouée de coups, hein, il faut pas oublier.
Absolument, ce qui est aussi incroyable, c'est que les femmes maintenant, la Turquie c'est un pays où on continue à avoir des crimes d'honneur, où les jeunes filles sont abattues, ou bien on a aussi des mariages forcés à des âges très très jeunes. Donc, voir la solidarité des femmes qui, pendant des décennies, ont été, soyons honnêtes, assez silencieuses, se jeter sur ces hommes et dire que ce sont des comportements qui sont inacceptables, ça donne de l'espoir.
Mmh. Bon, en tout cas, l'agresseur de cette femme qui portait un short et qui le dérangeait fortement a été bien interpellé, il est placé en détention. Il sera poursuivi pour incitation à la haine et à l'hostilité, a priori.
Je dirais amen.
Oui.
Oui. Mais ce qui est choquant quand même, c'est exactement la même chose. Ça se passe souvent aussi dans le métro à Paris. C'est pas pour les mêmes raisons. C'est pas des islamistes qui dénoncent une tenue pas correcte, mais c'est plus des gens, des hommes qui se sentent qui pensent qu'ils ont le droit de toucher une femme.
Et donc, ou de porter un jugement sur la tenue d'une femme.
Tout c'est une autre raison, mais le comportement est pareil. Le comportement est pareil, pour d'autres raisons.
Un peu de l'homme envers la femme, de l'appuyer depuis derrière, ça arrive très souvent. Après, bon, il y a d'autres raisons, et c'est vrai qu'on est dans un contexte où on tend plutôt à parler de ça. On a eu le burkini, la discussion, il n'y a pas très longtemps, même si c'était un faux débat. C'est comme on se rappelle de ça et tout d'un coup, mais alors pourquoi on ne parle pas du short ? Pourquoi elles ne peuvent pas être en short là-bas ? C'est comme aussi un peu ridicule et par rapport au contexte, ça pose plein de questions au-delà de comment on doit s'habiller, plutôt sur la tolérance religieuse.
Absolument, je pense que ce cas n'est pas juste le fait que la Turquie soit un pays à 99% musulmans, mais je pense que ça, c'est le regard de l'homme est universel dans le sens où et le regard à travers la femme. Après, comment comment ce regard est concrétisé et exprimé dans les pays sont différents. Je ne connais pas aussi bien que vous l'Argentine, l'Allemagne ou la France, mais je pense que nous en Turquie, malheureusement, nous avons plus de cas où cette violence est vue plus souvent que
revenir bien sûr à la situation de la Turquie avec vous et chez Gülsert, à la fois sur une violence institutionnalisée, une violence latente dans la société. Ulrike Koltermann, en Allemagne, vous souhaitez revenir sur ce tollé qui a été déclenché dans la presse, un vrai débat public il y a un mois à propos d'un projet de loi sur ce qu'on appelle, alors il va falloir expliquer, les enfants coucou, parce que c'est comme ça qu'on les appelle dans les médias.
C'est facile, en français, c'est les fils ou les filles du facteur,
oui,
tout
bon,
simplement.
Là aussi, il faut peut-être expliquer.
Mais... C'est un enfant qui est né pendant le mariage, mais le père biologique, c'est un amant extra-conjugal.
Voilà.
D'accord. C'est quand même assez souvent que ça arrive. Et maintenant, l'Allemagne veut renforcer la position du père, on dit faux père, pour faire la différence entre le père
c'est-à-dire
biologique,
du conjoint,
le mari,
du conjoint
voilà, le mari qui se rend compte que ce
n'est pas le père
enfant.
De l'enfant.
Tout à fait. Et ce qui semble bizarre, c'est qu'on veut forcer la femme de révéler qui était son amant et qui est le père biologique de l'enfant. Ce qui semble, pour les Françaises, c'est
ah oui,
un scandale.
En France, il n'y a aucune loi qui contraint une femme à donner le nom de son amant qui serait le père biologique d'un enfant. Oui.
Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Pour les femmes, c'est une catastrophe. Mais en même temps, en Allemagne, ce n'était pas tellement un grand débat parce que le but, c'est plutôt de renforcer la position du père. Et ça, c'est quelque chose de positif. Donc, un père qui se rend compte que son enfant qu'il élève, ce n'est pas son enfant biologique, maintenant, si la loi passe... il a les moyens de dire, je veux savoir qui est le père biologique et le père biologique doit contribuer financièrement à oui, l'éducation
c'est
de l'enfant.
Quand même, c'est une loi, enfin c'est un projet de loi, hein. c'est un projet de loi qui défend les droits des pères, en fait, des pères de famille.
Et les droits des enfants aussi, finalement, parce que si le père biologique assume son rôle, au moins il contribue financièrement, ça peut être une bonne chose pour l'enfant.
Oui.
Et aussi, ils veulent limiter. Donc, le père biologique peut demander comme un remboursement.
C'est ça, il y a quand même des histoires
mais
de gros sous.
Mais c'est limité à 2 ans. Oui. Donc, au moins, ça le protège un petit peu aussi. Il ne va pas payer pour toute l'éducation de l'enfant jusqu'à l'âge de 18 ans, ou même plus, parce qu'a priori, ça... On doit même payer des études.
Je crois que vous allez dire à se limiter à 2 enfants. Je me disais, oh là 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 là.
Bon, alors évidemment, impossible de savoir combien d'enfants sont concernés.
Oui, tout à fait.
Et après, illégitimes, finalement,
le projet de loi laisse aussi une porte ouverte pour la mère. Dans les circonstances pas précisées, la mère peut refuser de révéler le nom. Donc, peut-être que c'est juste un message fort pour renforcer la position du père.
La question, c'est qu'est-ce qui doit passer en premier ? Le secret de la vie privée de la mère ou bien relancer le débat sur la paternité ? Qu'est-ce qu'être père ? Qu'est-ce qu'un père social ? Un père biologique ? Qui faut-il protéger ? C'est ça, les questions que ça pose. Donc, quelles sont vos positions à vous, mesdames ?
Mais pardon, ça serait à la demande de qui ? Que la femme est obligée
Le père, donc le mari, qui se rend compte.
Je ne peux payer pour les études de cet enfant qui n'est pas
le
mien.
Parce que les oreilles.
Ah oui, donc ça va devenir un ex-mari, déjà. Parce que ça va finir le couple pour commencer. Enfin, moi, c'est comme un peu inenvisageable.
J'aime bien votre analyse assez pragmatique.
Non, mais c'est-à-dire, déjà, ils vont se disputer.
Oui, je pense que c'est pas réaliste, tout à fait.
Non, c'est pas. Je trouve que c'est un peu comme vouloir trop. On lit légiférer.
Mais c'est ça, légiférer. Est-ce qu'il faut légiférer sur une zone aussi sensible de la vie privée, finalement ?
Moi, je suis sous le choc. Excusez-moi, je viens d'Istanbul, ça fait quelques jours. Et entendre un débat comme ça, qui est très valable, absolument, mais où le débat que nous sommes en train d'avoir en Turquie, en tout ce qui est aussi législation, c'est, et d'autres, c'est ce que ma génération des femmes, nous avons attendu un peu trop longtemps comparé aux générations avant pour être mères. Est-ce que le débat qui se passe en Turquie, c'est que est-ce que nous pouvons être mères sans être mariées ? Est-ce que une femme peut attendre jusqu'à l'âge de 35-40 ans pour être mère dans un pays qui est assez traditionnel ? Donc quand j'entends ce débat, je souris de joie parce que je me dis donc il y a peut-être dans 10 ans, ce sera notre sujet de conversation en Turquie.
Faut-il forcer les femmes à avouer le nom de leur amant ?
On peut pas. Non, mais
c'est un débat sérieux en Allemagne, on est bien d'accord, hein, Ulrike.
Oui, c'est sérieux, mais en même temps, on peut pas forcer la femme. Et la loi, le projet de loi, c'est pas encore voté, laisse la porte ouverte. Elle peut toujours dire je veux pas, voilà. Et la loi ne prévoit pas des sanctions. On peut pas sanctionner une femme qui ne veut pas révéler sa vie intime, quand même.
Les tchatcheuses, vous croisez vos analyses, vous croisez vos sensibilités, on l'entend, et vos étonnements chez 7 milliards. Dans quelques instants, on parlera des concours de beauté en Argentine. Nathalie Kant, notre journaliste tchatcheuse argentine, vous souhaitez revenir sur ces concours de beauté qui font débat en Argentine. Ça, moi, je ne savais pas, mais il y a 9 mairies en Argentine qui ont interdit les concours de beauté, ou en tout cas qui ont durci les conditions de participation. C'est bien cela
Oui.
Parce que c'est très associé à des fêtes traditionnelles, ces concours de beauté en Argentine.
Oui, d'abord, je veux dire que... En général, les sujets féministes parfois me dérangent un peu parce qu'on rentre dans des débats
sur
absolument tout. Donc, mais dans ce cas, j'ai lu, je me suis renseignée un peu et c'est vrai qu'elles ont bien fait, ces associations de femmes, de demander...
Donc, de femmes féministes,
oui,
c'est ça ?
De demander qu'ils interdisent. Alors, en Argentine, il y a des fêtes qu'on appelle des fêtes traditionnelles ou des fêtes populaires de absolument tout. La fête du bois, la fête de l'ongle, la fête du ferronnier, la fête de la chaise, il y a de tout. Et il y a aussi ces concours de beauté qui permettent à une fille entre 13 et 21 ans, sans enfant, célibataire, un beau corps, tout ça... d'être reine ou princesse, et alors elle fait un peu...
À partir de 13 ans,
oui,
c'est
tout. Et alors, quand elle gagne, elle fait le tour du pays. Pendant un an, elle s'engage à ça, en échange d'achat de vêtements ou un peu d'argent. Et ça, apparemment, ça, c'est pour promouvoir le tourisme.
Ah bon ?
Oui, parce que...
Tourisme, quel genre de tourisme ?
Non, pas le tourisme sexuel, non.
Le tourisme de bois.
Non, le tourisme, c'est-à-dire, on voit une fille qui est belle et alors elle va... Non,
En fait, c'est une activité culturelle comme une autre, c'est ça que vous voulez nous dire, finalement.
À part pour eux, oui. Alors, mais le truc, c'est d'abord comment ces filles sont choisies. C'est-à-dire, elles sont entre 13 et 21 ans dans une salle avec un comité d'hommes. Je vous dis déjà que, c'est-à-dire, on peut paraître un peu moderne à Buenos Aires, mais dans le reste du pays, on est plutôt archaïque. Donc, j'imagine ces hommes, ce que c'est, là, tous avec le costume, en train de voir les fesses, les seins.
Donc, c'est souvent une situation... des notables de la commune.
Oui.
Parce qu'il faut savoir, les concours sont financés par les communes.
Par les communes. Et après, quand elle est choisie, elle fait ce tour pendant un certain temps. Mais par exemple, il y a une à qui on lui a enlevé la couronne parce qu'après, on a su qu'elle était enceinte et alors c'est devenu public. Et pour les filles, c'est-à-dire, ce que j'ai trouvé intéressant...
Mais les familles sont très fières, hein, ceci dit.
Comment ?
De faire participer leurs filles.
Oui, mais
et
ce
les
que
filles
j'ai
elles-mêmes
ce
aussi.
Ce que je trouve intéressant, c'est que certaines communes ou mairies où ceci a finalement été interdit, elles ont décidé de promouvoir autre chose. Par exemple, un très jeune garçon avec une petite entreprise pour qui veut devenir entrepreneur de quelque chose, une personne qui est terriblement solidaire pour la commune, ou même
de belles réalisations individuelles.
Exact. Donc il y a d'un côté le côté féministe, c'est vrai, pourquoi pas aussi un homme qui soit le roi au lieu de, mais bon là ça peut-être ça peut réouvrir le débat parce que roi, pourquoi pas reine et tout ça, mais surtout la possibilité de faire passer un autre type de message, de qu'on peut, je ne sais pas, un autre type de message, et surtout, des prix à des gens qui ont fait d'autres choses.
Est-ce qu'on peut changer les Argentins en interdisant ce genre de concours, alors que vous le dites, ça a énormément de succès, il y a un culte du corps finalement énorme.
Oui, à mon avis, ça peut changer un peu en Argentine par rapport justement au débat féministe, parce que maintenant, depuis un certain temps, c'est quelque chose qui revient, toutes les femmes sortent pour parler par exemple de la violence faites aux femmes, c'est très présent sur les réseaux sociaux. Donc, de ce côté-là, ça peut, je pense, changer un petit peu.
Mais surtout, les filles devraient être majeures. Moi, je trouve que c'est un scandale d'envoyer les gamines de 13 ans montrer leur corps, qui sont encore en pleine adolescence.
En plus, elles défilent devant tout le monde. Et après, quand elles ont gagné, et par exemple, il y a un animateur qui dit « Ah, mais avec ce corps-là, vous pouvez... au moins avec ça, vous devez être réveillée, j'imagine. Genre, ça, si ça ne vous réveille pas, qu'est-ce qui vous réveille ? Mais attention, ne faites rien parce que vous allez à la police.
Ouais, on appréciera la grivoiserie. Et chez Gull, certes.
Quand j'entends ça, du concours de beauté, donc nous, le Miss Turquie en un sens, donc concours de beauté en Turquie, on l'a eu Ce qui est intéressant, c'est assez tôt, je crois que ça a commencé en 1929, donc quelques années après le fait que le pays soit, qu'on soit devenu une république. Mais ce qui est intéressant, c'est du concours de beauté, c'est cette idée de la beauté, de la définition de la beauté qui m'interpelle. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je remarque aujourd'hui en Turquie, par exemple à Istanbul, la ville la plus cosmopolite, c'est que nous avons des publicités des femmes voilées de la soie, du foulard, du voile en coloré en soie, ouais, à côté des pubs de tout ce qui est coloration de cheveux, de L'Oréal, etc. Ouais, donc c'est ce concept de voilà, la beauté aussi qui est intéressant.
C'est aussi le monde d'aujourd'hui. On poursuit le débat juste après le flash dans 3 minutes, les tchatcheuses.
Autour de la question. 7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. C'est le rendez-vous des tchatcheuses aujourd'hui avec des journalistes venus des trois coins du monde pour croiser des points de vue, des ressentis sur la petite et la grande actualité. Avec nous, Ayşe Gülsert, journaliste turque, Nathalie Kant, journaliste argentine, Ulrike Kolterman, journaliste allemande. Ayşe Gülsert, évidemment, il faut que nous reparlions de votre pays, de la Turquie. Tous les médias parlent du spectaculaire durcissement politique en Turquie après le coup d'État manqué de juillet dernier, avec des purges à grande échelle. Il faut qu'on rappelle les chiffres. 85 000 fonctionnaires suspendus ou limogés. Parmi eux, il y a près de 3 500 magistrats. Mais surtout, 27 000 enseignants licenciés. 10 000 autres relevés temporairement de leurs fonctions. Autant dire que sur 18 millions d'élèves, ça pèse sur la rentrée scolaire, ça pèse sur la marche quotidienne du pays.
Absolument, et aussi cette purge, je dirais, au sein des enseignements de l'éducation, mais aussi ça a été non seulement dans les médias, mais aussi de l'enseignement. Donc le coup d'État avorté était le 15 juillet et la rentrée était la semaine dernière. Ce qui aussi, donc des écoles ont été fermées, que le gouvernement disait avait des liens avec le imam Fethullah Gulen qui est exilé aux États-Unis depuis 1999, qui est l'ennemi juré de M. Erdogan. Et ce qui aussi a noté, les 10 000, plus de 10 000 enseignants que vous avez nommés, donc c'est plus de 11 000, c'est au sud-est du pays, qui est majoritairement qui a une population majoritairement kurde, et sachant que depuis plus de 30 ans, il y a une guerre civile qui se déroule en Turquie entre le PKK, l'organisation terroriste du Parti des travailleurs kurdes et l'armée turque, dans un contexte où, si nous voulons vraiment aboutir à une question de paix et d'entente au sein d'un pays de 79 millions de personnes, cela va sûrement passer par l'éducation. L'écoute de l'autre, la tolérance, essayer de comprendre l'autre
et le dialogue. Donc c'est pas en fermant les écoles qu'on va y arriver. Donc,
absolument pas, mais après il faut se poser des questions. Pourquoi l'éducation est-elle visée? De mon point de vue personnel, il est plus facile de diriger des ignorants que de diriger des hommes et des femmes et qui sont capables de se poser des questions. Où est-ce que vous apprenez à poser des questions? Si on est à l'école, mais aussi en ayant accès aux journaux, aux éditoriaux, aux voix dissidentes.
Alors je sais que vous êtes très sensible à la culture, Ayşe Gül, et là on parlait d'une reprise en main à grande échelle qui touche directement les enfants, la rentrée scolaire avec l'augmentation du nombre d'élèves par classe, par exemple, bien que les écoles privées, je crois, ne sont pas touchées par les limogeages, là aussi, c'est intéressant.
Pas encore, les doigts sont croisés, oui, voilà. Mais ils sont sous pression.
La culture et les arts ne sont pas épargnés, il y a eu plusieurs annulations là, d'événements culturels prévus qui n'ont pas eu lieu ces derniers temps.
Oui, ce qui est très dommage. Donc, dernièrement, il y a eu la Biennale de Çanakkale qui devait commencer le 24 septembre et continuer pendant plusieurs semaines, qui a été annulée. Ça allait être la 5e édition. Un mois avant ça, il y avait encore
donc
la Biennale
qui rassemble des artistes, des plasticiens.
Voilà, de tout. Et que le sujet, cette année, c'était aussi un peu centré sur la question de tout ce qui concerne les réfugiés aussi, oui, qui était un sujet un peu politique en un sens. Mais ce qui est dommage, c'est que dans les années 2006, je dirais entre 2006 et 2010, nous avons observé en Turquie, et c'était sous ce gouvernement même qu'il y a eu une croissance de tout ce qui est de milieux culturels, des festivals, des foires, des artistes turcs qui avaient été éduqués à l'étranger, qui revenaient à leur terre patrie.
Et qui n'étaient pas seulement accessibles à une élite. Hein.
Absolument pas. Après, les élites, c'est vrai qu'il y a eu énormément de fondations turques, donc d'hommes riches, je dirais à la Bolloré ou Bernard Arnault, à la Turca, qui ont donné beaucoup d'argent pour que les musées et les galeries soient fondés. Mais ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, les intellectuels, donc non seulement les académiciens, mais les intellectuels, les artistes, les metteurs en scène, les acteurs, les peintres, ont de moins en moins d'endroits, d'espace, non seulement pour créer, mais aussi pour s'exprimer. Et ça veut dire qu'il y a moins de place
et pour... Pourquoi manque d'argent, peur?
Je pense qu'il y a un petit peu tout. Je pense que c'est un pays qui vient de rebaptiser le ministère de la Culture en tant étant le ministère de la Culture et du Tourisme. Je ne sais pas chez vous ou dans d'autres pays comment c'est, mais moi, l'idée de voir le mot culture et tourisme dans le même ministère m'effraie. Ça veut dire, ça montre en un sens la vision de ce gouvernement du culture. Oui. Si ça ramène de l'argent, ça veut dire que ça a une place. Sinon, l'art ne sert à rien, j'imagine, à leurs yeux.
Ouais, vu de l'Allemagne, je peux que confirmer qu'il y a une très grande communauté turque en Allemagne. Et ça a fait beaucoup de vagues, ce développement, parce que tous les intellectuels, les artistes, tous ces Turcs qui sont installés en Allemagne, mais qui faisaient des allers-retours, qui se sentaient enracinés dans les deux pays, ils sentent maintenant que c'est en train de changer. Donc il faut choisir, si on veut continuer, il faut rester en exil en Allemagne. Ça, c'est quelque chose qui est effrayant.
Alors, il y a une note d'espoir tout de même que vous voulez souligner. C'est un village des mathématiques qui existe depuis fort longtemps, depuis 2008, je crois, à Izmir. Une sorte de festival des maths, c'est ça qui se tient l'été?
Alors, c'est finalement, vous me faites sourire un petit peu, Manuel, merci. Quelque chose de bien qui parvient de la Turquie.
Non, mais les maths peuvent-elles échapper à la reprise en main politique? C'est ça la question, je ne sais pas.
Oui, en un sens peut-être, parce que donc ce village qui est à Izmir, donc sur la côte Égéen à l'ouest de la Turquie, a été fondé il y a à peu près 10 ans par Ali Nesin, le fils d'un des plus grands écrivains intellectuels turcs, Aziz Nesin. Et lui, il a fait ses études de mathématiques en France. Et il a fait le retour à la terre patrie afin de la fondation de Nesin de créer un village où chaque été, des élèves de lycée et d'université pourront venir pour, en un sens, remplir leurs lacunes qu'ils ont eues dans le système éducatif turc, qui est quand même assez basé sur tout ce qui est mémorisation. Mais dans le contexte dont on parlait, dans un pays où l'éducation fait des pas en arrière, avoir un village où nous parlons de mathématiques. Et cette année, cet été-là, on parlait aussi de village de philosophie. Ça devient un espace où les jeunes universitaires ou de lycéennes peuvent venir afin de poser des questions. Pourquoi les mathématiques et la politique peut-être peuvent aller main à main? C'est une question c'est question-réponse, dans le sens où il y a un problème, on essaie de trouver une solution. C'est le fait, on parlait tout à l'heure, d'essayer d'être rassemblés afin de résoudre un problème, de penser pour soi. Oui. Et les mathématiques et la philosophie permettent ça.
Et ça prend une toute autre ampleur, du coup.
Absolument.
Finalement. Ça donne le droit d'espérer. En tout cas, ça peut être une forme de résistance. Merci pour ce gros plan sur la Turquie. Ulrike Koltermann, vous réclamez la parole. Alors là, je ne sais pas si c'est la journaliste allemande ou la mère expatriée, malheureuse en France, en cette période de rentrée scolaire. Et oui, c'est aussi la rentrée scolaire en France. Vous voulez relancer le match école maternelle à la française contre jardin d'enfants à l'allemande, à savoir kindergarten.
Oui, voilà, donc j'avoue, je découvre l'école maternelle cette année.
Mais crachez-nous le morceau, donc.
Voilà, mon fils a 3 ans, ça y est, il est à l'école.
Condamné pour au moins 20 ans.
Et je suis quand même, je ne veux pas faire l'allemand de service, que tout est mieux en Allemagne, mais je veux dire, pour l'éducation des tout-petits, j'étais quand même un petit peu choquée quand j'ai découvert le système. Donc, on nous a présenté comment ça se passe à l'école, la journée, toute la journée, tout est organisé. J'ai posé la question, mais le jeu libre, c'est quand? Ah ben, c'est la pause de récréation. Mais il y a quand même des études qui ont montré que jusqu'à 8 ans, l'enfant devrait jouer.
Vous n'allez pas être copine avec l'institutrice.
L'instituteur,
je ne sais pas.
Institutrice, déjà, il n'y a pas beaucoup d'hommes aussi dans ce... Voilà, dans cette profession.
J'adore comment le thème de l'homme revient très souvent.
Il y a plein d'études qui montrent qu'un enfant qui commence à lire à l'âge de 7 ans et un enfant qui commence à 3 ans, 4 ans à déchiffrer quelques lettres à l'âge de 11 ans, ça ne fait plus aucune différence. Donc pourquoi commencer si tôt?
Oui, parce que les petits Allemands, il faut le dire, apprennent très tard à lire. Hein,
en Allemagne,
aux alentours de 7 ans.
Ça commence à 6-7 ans et avant.
Et l'école n'est pas obligatoire, il me semble-t-il, jusqu'à 7 ans.
Non plus.
C'est ça.
Non, à partir de 6-7 ans.
Oui, c'est ça.
Voilà, l'école primaire comme ici.
Oui, mais bon, réalité, dans les faits.
Je pense qu'on pourrait donner une plus grande place au jeu, à la créativité, encourager les enfants.
Moi, j'invite
Ulrike,
je t'invite
au tribunal de l'école maternelle
à venir en Argentine, à vivre, t'installer en Argentine où la maternelle, c'est un espace de jeu. On va au jardin d'enfants, comme on appelle ça, le jardin d'enfants, c'est la maternelle, pour jouer.
Ben voilà.
On va pas pour apprendre, c'est-à-dire, au fait, ici, c'est vrai que moi, j'ai une nièce, elle sait plus de choses que moi. À 4-5 ans, elle savait déjà plus de choses que moi, elles sont hyper informées, ils connaissent tout, ils leur apprennent à réfléchir et tout. Là-bas, en Argentine, c'est jouer.
Et ce qui est grave, je pense, dans tout ça, c'est la compétitivité, ça commence très très tôt. Donc, le premier jour, on entend d'évaluation. Bon, on va évaluer les enfants, je ne veux pas qu'on évalue mon enfant. Chaque enfant a son rythme. Et honnêtement, je m'en fous s'il sait faire ça ou ça ou ça, il va l'apprendre. Je pense que ça commence trop tôt et ça décourage les enfants parce que même s'ils n'ont pas de notes, mais ils comprennent très bien qu'ils sont évalués. Et ceux qui n'arrivent pas à faire certaines choses, dès le début, dès 3 ans, ils connaissent une frustration qui, à mon avis, est totalement inutile.
Oui, et du côté des parents, tout milieu confondu, vous dénoncez un marché de l'angoisse scolaire.
Tout à fait. Et maintenant, je comprends pourquoi ça commence trop tôt.
C'est intéressant parce que je me pose souvent la question...
Vous, j'avais grandi dans tous les systèmes, pratiquement, et chez Gull, non?
Mais je suis complètement perdue, Emmanuel. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai vécu longtemps, pendant plusieurs années aux États-Unis. Et ce qui est impressionnant avec mes amis français que je remarque, c'est cette peur de l'échec. Et quand j'entends Ulrike un petit peu parler de cette compétitivité et à un très jeune âge commencer à avoir des devoirs et des buts et des ambitions, je me demande si je me pose la question, si ça ne contribue pas dans le futur, quand on vient à l'âge adulte, de cette peur de l'échec que, par exemple, les Américains...
Alors, intéressant, parce que dans les évaluations internationales qui comparent différents pays, les évaluations menées par l'OCDE, l'élève français, quand il ne sait pas, il ne coche pas, alors que les autres cochent au pif. Ça peut toujours marcher.
Nous avons les élections aux États-Unis dans pas longtemps. On connaît très bien l'un des candidats qui coche au pif très, très souvent. Après, moi, j'ai été éduquée dans un système français en Turquie, qui était très stricte, mais qui m'a très bien construit.
Pareil.
Alors, puisqu'on est dans le French bashing, parce que là, on a bien compris quand même vos positions à toutes les trois, les tchatcheuses, qu'est-ce que vous pensez du projet de créer un parc naturiste à Paris? Proposition des élus écologistes validée lundi dernier, donc c'est tout frais, par le conseil municipal de Paris.
Je trouve que c'est une bonne idée.
Peut-être qu'il faut expliquer ce que c'est qu'un parc naturiste à nos auditeurs. Vous connaissez bien en étant allemande.
On se met à poil. C'est une sorte de liberté. ça va. Il y a déjà en France le village le plus grand nudiste. Et j'ai fait un de mes premiers reportages en France.
Ça intéresse les Allemands, il faut quand même le dire.
Ça intéresse les Allemands. C'est aussi l'Allemagne de l'Est qui était une grande prison. C'est là où le nudisme s'est développé parce que c'était à peu près la seule liberté qu'on pouvait se permettre. Donc, ça a des raisons bien historiques. Mais le plus grand village nudiste en Europe, ça se trouve en France. Et ce qui se passe là-bas, ce n'est pas toujours très gai, je trouve. Par contre, pourquoi interdire la nudité? Je veux dire, c'est quelque même... chose très
Ce pays habituel. Est quand même remarquable. Parce qu'il y a un mois, on parle du burkini. Et le mois prochain, on parle de la possibilité qu'il y aura des parcs nudistes.
Oui, mais finalement, c'est à voir avec la liberté que chacun fasse ce qu'il veut. Moi, ce que je note juste, c'est que c'est toujours ce besoin d'avoir un espace pour faire quelque chose. pour, je sais pas, c'est comme cette,
ce bah, besoin. Il vaut mieux ça que se promener tout nu sur les voies sur berge qui vont devenir piétonnes. Non, je ne sais pas, ça pourrait déranger certains, non?
Non, oui, je comprends, mais ce besoin comme d'avoir un petit peu de tout pour que chacun puisse faire un peu ce qu'il veut, c'est un peu ça, non?
Bah, c'est bien, ça montre que Paris devient une ville ouverte. Je pense que c'est un message, c'est pas pour les quelques nudistes.
Qui va aller à ce parc?
Il y a déjà une piscine où tu peux nager à poil une fois par semaine, je pense.
Ah bon?
Mais, dans le 12e. Ah, je ne suis pas allée, mais voilà. Je pense que c'est le message qui compte. Ce n'est pas important s'il y a quelques dizaines qui vont ou pas. De toute façon, ils vont tout faire pour ne pas les laisser au regard de tout le monde, pour les protéger. Mais c'est un message de Paris et je trouve que Paris est en train de changer. C'est plus piéton, c'est plus cycliste,
c'est plus ouvert au monde. Plus friendly, vous voulez dire, c'est ça finalement?
Non, mais je me demande qui va aller et pourquoi y aller finalement. Peut-être ça va devenir un parc un peu idéologique, c'est-à-dire l'idéologie de se tenir sans habit et tout ça. Parce que pour être nu, pour être nu, moi je préfère aller dans une plage. Je ne sais pas, au Brésil.
Paris, d'accord, et si vous n'avez pas les moyens d'aller sur une plage, vous pourrez torcoraton au Conseil de Paris.
Mais ça ne va pas être très poétique,
Avant de se quitter, est-ce qu'on a le temps de dire juste un tout petit mot sur les réseaux sociaux, les Mexicains sur les réseaux sociaux? Vous soutenez les Mexicains qui... On a l'impression un peu d'un lynchage médiatique vis-à-vis de certains élus au Mexique via des hashtags vengeurs, etc. Alors, je ne sais pas s'il faut appeler ça une forme de démocratie participative.
Oui, parce que ce que je découvre, c'est qu'au Mexique, comme en Argentine, je ne sais pas si France, je trouve que c'est un peu moins, il y a beaucoup d'activités sur les réseaux sociaux, beaucoup d'activités sur Twitter, et ça devient aussi une manière de dire autre chose. Et ce qui s'est passé en particulier au Mexique, c'est qu'ils ont détecté qu'il y avait une femme politique qui, ils ont commencé à dire qu'elle était tout habillée avec des marques.
Oui.
Avec, bon, je ne vais la pas citer les commune. Marques. Oui,
et que c'était impossible vu son salaire d'élu.
Et oui, parce qu'en tout ce qu'elle avait, c'était 40 000 euros et elle gagne 3 200 euros par...
Donc, forme de justice participative avec tous les risques de lynchage médiatique, vous adhérez? Vous trouvez ça bien?
Comment?
Avec des risques quand même de lynchage,
oui,
quand tout le monde s'y met avec des hashtags vengeurs.
Oui, mais si ce n'est pas vrai, ça ne va pas passer. C'est-à-dire, là, il y avait quelque chose de vrai. La preuve, c'est qu'elle a répondu, c'était des cadeaux de mon mari ou des contrefaçons. Du coup, elle est dans la contrefaçon, ce qu'elle avait, son sac de marque.
Donc, vous dites bravo les Mexicains. On devrait faire pareil.
Oui, je trouve que... oui, je ne sais pas si les choses sont plus structurées.
Certaines choses peuvent tomber sous le coup de la loi pour atteinte à la vie privée, notamment.
Et peut-être qu'utiliser les réseaux sociaux comme un espace... où la justice est faite, elle serait pas mal aussi, en tout ce qui concerne les politiques.
Donc on fait ça avec l'humour, je pense
bien
que ça
sûr,
va.
Ouais. Bien sûr.
Dans quelques instants, reportage chez 7 milliards de voisins avec le rendez-vous des tchatcheuses. Vous savez qu'on termine toujours avec un reportage. Je vais vous laisser découvrir ça. Il s'agit de tours humaines en Catalogne, en Espagne. Ça existe depuis 2 siècles et ça cartonne. Toutes ces abrutis qui me disent quoi faire, ça suffit. Je change ma chorégraphie. Les astres step on the scene. Like, nah, look at me, got flow like a stream. Bring that hype, that extreme cream. Like ice diamonds and dreams. It seems it's all just so obscene. I'm so mean. Zero to 100 when I rock the mic, see? I'll just do it cause I'm feeling feisty. Like Nike, they wanna be in my shoes. Yeah, they wanna be like me. I'm feeling all pricey, but that's no news. So I let them know that. Quit the chit chat, wearing all black. You better lay back, cause it's that to you. Sorry to say that. Feeling all new, innovate that. I grab the mic and I slay that. No playback, we keep it live. Ready to strive. Killer like a beehive, we rise. Yeah, we rise. It's getting late and I'm feeling kind of faded. This music's high, got me feeling all dazed. Yeah, time is slim, all these people getting shaded. It's crazy, I think they need a new super lady. So, bring the beat back, time for that. Pourquoi on veut vous parler des tours humaines en Catalogne, en Espagne maintenant? Parce que la compétition aura lieu le 1er octobre, donc dans quelques jours. Les tours humaines, ce sont en fait ce qu'on appelle des castels, comment on dit en espagnol?
Batijos.
Oui, c'est ça. Oui.
Nathalie, tu peux répéter ça.
Castillos.
Des tours humaines, c'est une tradition
castillos
en fait.
Castillos humanos.
Exactement, qui consiste donc à former des constructions en se grimpant les uns sur les autres. C'est une tradition qui est vieille de deux siècles, très populaire en Catalogne, une région du nord de l'Espagne, où une centaine de villes possèdent déjà leurs propres équipes. Toutes s'affrontent tous les deux ans à Tarragone, à l'occasion d'une compétition, donc 1er octobre prochain. Et depuis longtemps, eh bien, les champions indétrônables, ce sont les Castillos de la petite ville de Villafranca. J'ai bien prononcé à peu
très
près.
Très bien, Manuel.
Et Alice Milo, notre reporter, a assisté à un entraînement. On est dans le gymnase où parfois il y a jusqu'à 600 habitants qui viennent participer à ces constructions. Tout le monde y a sa place, de 6 ans à 80 ans.
Donc, les premiers minutes de l'entraînement, ils sont escalfant une mica.
Là, l'entraînement va commencer dans 10 minutes et tout le monde se rassemble avant de préparer l'échauffement.
Ce soir, les gens sont venus ici pour construire une tour humaine. La tour, en fait, est construite en plusieurs parties, c'est ça?
Sí. Les persones més grans, més fortes, són les que han d'estar a la base.
Alors en bas, on retrouve les personnes qui sont les plus fortes. Au deuxième étage, les personnes qui sont un peu plus grandes et plus fines et qui sont capables de supporter le poids. Et en fait, plus vous montez, plus vous avez des personnes petites et plus légères.
Et tout en haut, ce sont les enfants.
Sí. À dalt de tot, són els més petits.
Oui, ce sont toujours les enfants qui sont tout en haut, car ce sont les plus légers, les plus rapides pour monter.
Mais alors, vous travaillez sans aucun filet? Alors que ce sont des petits de 6 ans qui sont tout là-haut. Est-ce que c'est pas dangereux?
Si tu fixes en aquests castells que sont més petits.
La sécurité est assurée par les plus grands, les plus forts qui sont en bas. La taille de la piña permet de réceptionner les enfants, mais il y a très peu d'accidents car nous travaillons en toute sécurité.
La foule qui est au pied de la tour, c'est comme un filet de sécurité humain en fait.
Si.
Là, le coach demande le silence, donc une nouvelle tour humaine va commencer. Hein.
Oui, donc là on peut voir les gens qui se regroupent au centre du local pour former donc la piña, la base. Plus d'une centaine de personnes en cercle qui se serrent, qui forment la base. Et là on a deux personnes qui sont quand même de forte taille, qui viennent de monter au premier étage.
Donc ils sont montés sur les épaules de la base.
Hein. Exactement. Toute la piña se resserre pour apporter la stabilité du tronc.
C'est ce que dit le coach?
Oui, il demande de se rapprocher, de se serrer. Il demande aussi le silence. Pouvoir se concentrer. Le troisième étage est en train de se former. Là, on commence à voir des personnes, comme des jeunes filles qui sont plus légères, qui vont être donc soutenues par toute cette base d'hommes forts.
Ils grimpent presque comme sur les branches d'un arbre, en fait.
Tout à fait, on dirait des petits singes.
Donc là, le quatrième étage est en train de se former.
Exactement, ouais, tout à fait.
Et le cinquième étage en même temps.
Tout à fait. Donc là, on arrive à plus de 10 mètres, facilement. On sent la fragilité et en même temps la force de la tour, c'est assez impressionnant. On sent que n'importe quel coup peut être fatal.
Il y a une tension forte dans la pièce. Hein.
Ouais, on se rend compte de l'importance des risques qu'ils prennent.
Et donc la tour, tout doucement, se défait. En fait, ce qui est impressionnant, c'est que cette tour, elle se construit et elle se défait en quelques minutes à peine.
Mmh. Ouais, tout à fait. On pourrait s'attendre à ce qu'il reste plus longtemps, mais en même temps, on comprend que l'équilibre doit être difficile à maintenir.
Vous êtes venu participer à votre entraînement de tour humaine ce soir?
Si, si, si.
Vous vous appelez comment?
Neus.
Je m'appelle Neus, j'ai 28 ans.
Vous avez commencé à quel âge alors?
En
1999, j'avais 11 ans.
Est-ce que vous connaissez, mejor cuando practicas algún deporte, l'adrénaline que te genera, como el morbo, no sé si es un morbo, un...
Ce que je ressens, c'est comme de l'adrénaline, c'est une envie, comme une addiction qui fait que j'ai besoin de me surpasser. Alors je ne sais pas si c'est à cause de mes amis que je me suis fait ici, cette ambiance familiale et tout ça, mais ça fait que j'ai tout le temps envie de continuer.
Quand la tour est en train de se construire, ça tremble. D'ailleurs, on en voit une là qui est en train de se faire à l'intérieur du gymnase. Ça tremble presque.
Para, o sea, el castillo que hemos visto ahora no es temblar.
Oui, ça, on a l'impression que ça tremble, mais ça ne tremble pas vraiment. C'est comme les battements du cœur, c'est quelque chose de continu et ça fait partie de la tour humaine, justement. C'est une cohésion. C'est pas quelque chose de stable, c'est fragile. On doit tout mesurer, on doit tout calculer. Donc prendre bien conscience des uns des autres pour que personne ne surévalue sa force ou la sous-estime, pour que tout le monde gagne en stabilité. Et bien que ça puisse paraître tremblant, c'est calculé.
Yo soy Soc Jordi Surinyac, soc periodista i soc coautor del llibre Emocions puntuades, 25 edicions del concurs de Castells de Tarragona.
Nous sommes Jordi Surinyac et Jordi Andreu, journaliste, castellers à Tarragona et auteur de Emocions ponctuelles, un livre sur l'histoire des castells.
Quasi 100 colles. Hay algunas que tienen, algunas tienen alts y baixos.
Aujourd'hui, il y a environ 100 équipes à travers toute la Catalogne. Dans les années 80, il y en avait à peu près 40. Mais ça n'a pas cessé d'augmenter. À tel point qu'en 2010, les tours humaines ont été reconnues par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité.
La chute dans les tours humaines, est-ce que c'est un sujet tabou ?
Hay caídas.
Bien sûr qu'il y a des chutes. Il est même déjà arrivé que certains castellers soient gravement blessés. Mais c'est sûr qu'on n'aime pas trop parler de ça. Parfois, il arrive que certaines personnes viennent assister à nos démonstrations dans l'espoir de nous voir tomber. Ce sont des gens malveillants, comme certains Espagnols qui nous accusent de maltraiter les enfants en les faisant participer aux tours humaines. Ils disent qu'on les accuse de maltraiter les taureaux avec les corridas, alors que nous, on maltraite les enfants avec les castels. C'est des choses qu'on entend ici, parfois, dans les débats publics. Nos castels, c'est leur principal argument pour justifier leur corrida.
Qu'est-ce que tout ça, ça raconte finalement de la Catalogne ? Si cette tradition, elle est née ici, c'est sûrement pas par hasard.
Es un grupo de 200, 300 personas que no tienen nada en común.
Les castells peuvent réunir jusqu'à 200 personnes qui n'ont rien à voir entre elles, qui viennent de différents horizons, de différents milieux sociaux et culturels. Et tous ces gens arrivent à se retrouver pour faire quelque chose ensemble.
Voilà, faire quelque chose ensemble et monter jusqu'à 10 mètres, plus de 10 mètres, hein, ces tours humaines, qu'est-ce que ça vous évoque ?
Bah, c'est une belle solidarité hein, entre en bas, en haut, les plus vieux, les plus jeunes, les plus gros, les plus minces.
Moi, je pensais à ton enfant, Ulrike, je me disais, si vraiment la maternelle, ça ne marche pas, l'année prochaine, tu pourrais toujours l'envoyer en Catalogne à se rapprocher du ciel.
Et il apprendra à se mettre en risque, parce qu'il peut aller bien en haut, 10 mètres. Il n'aura pas peur.
Il va adorer, je suis sûre.
Bon, merci beaucoup les tchatcheuses d'être venues participer à l'émission. Et chez Gulsert, Nathalie Kant, Ulrike Kolterman. Merci à toute l'équipe aussi, Cécile Lavolo, Camille Errand, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi. Alors demain, 7 milliards de voisins, vous ne serez pas là, mais je suis sûre que le sujet va vous parler. C'est la tyrannie de l'apparence. Hein. On parlait des concours de beauté en Argentine, en France aussi. Ça peut aussi toucher, par exemple, tout simplement une fille, par exemple, qui est trop belle pour être crédible au boulot. On s'est rendu compte que voilà.
Oh, ça m'arrive très souvent. J'essaye de paraître intelligente et sérieuse, mais tout le monde craque.
Chégule, la J'imagine tyrannie de l'apparence.
Aussi, non, les filles.
Tout à fait, tout à fait.
Moi, j'assume l'intelligence et la beauté en même temps, ça ne me dérange pas.
Merci en tout cas de venir chaque mois dans ce studio avec vos sujets parfois déroutants, vos analyses pertinentes sur les femmes, les hommes et le monde qui nous entoure. Et bien sûr, les voisins, les voisines, vous savez que vous pouvez nous contacter à tout moment par mail, 7milliards@rfi.fr, postez tous vos messages sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et puis également tout simplement nous téléphoner 33 1 84 22 71 71. Demain en direct, vous avez la parole. Thank you.